VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Côte d'Ivoire, ouverture du procès devant le tribunal militaire d'Abidjan de 14 membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Par ailleurs, face aux critiques après le procès de l'épouse de Laurent Gbagbo dans ce même contexte, le gouvernement ivoirien a démenti hier toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame ivoirienne pour les violences post-électorales. Le point avec Bagassi Koura.
Pour le gouvernement ivoirien, il n'y a absolument pas d'interférence. La justice fait son travail de manière totalement indépendante. C'est ce qu'a affirmé Bruno Koné, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse à Abidjan. Il s'agit d'un procès d'assises qui fonctionne avec des jurés qui sont pris au hasard, a poursuivi Koné, cité par l'AFP. Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été condamnée mardi à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État. Le parquet général avait requis une peine de 10 ans de prison. Le verdict donne le net sentiment qu'il s'agit d'un acharnement contre la famille et les proches de Laurent Gbagbo, a regretté Alphonse Douati, ministre sous Laurent Gbagbo. Si les deux camps se sont montrés coupables d'exactions pendant la crise de 2010 à 2011, aucun responsable pro-Ouattara n'a à ce jour été inquiété, ce qui nourrit les accusations de justice des vainqueurs à quelques mois seulement de la présidentielle d'octobre.
Mauritanie, appel de 24 organisations de défense des droits humains et de la société civile aux autorités mauritaniennes pour qu'elles gracient un jeune blogueur condamné à mort en décembre sous l'accusation d'avoir abjuré sa foi musulmane. Dans un article publié sur Internet, le jeune homme avait critiqué l'utilisation de l'islam pour perpétuer le système de caste dans le pays. Michel Joseph.
Mohamed Mkhetir est la première personne à être condamnée à la peine capitale pour apostasie en Mauritanie. Durant son procès, le juge l'a accusé d'avoir parlé avec légèreté du prophète Mohamed dans son article. Mkhetir a expliqué que ce n'était pas du tout son intention et s'en est repenti. Selon la loi islamique, cela pourrait lui valoir la clémence de la justice. Le jeune blogueur a aussi interjeté appel et la Cour suprême pourrait le gracier. Kiné Fatimé est responsable de la campagne ouest-africaine d'Amnesty International, une des ONG plaidant la cause de Mohamed Nketir.
Pour nous, ce n'est pas un crime d'écrire un article d'opinion, ce n'est pas un crime de penser librement, donc c'est pour ça que nous sommes mobilisés à faire pression sur les autorités mauritaniennes pour qu'ils libèrent sans condition Mohamed Nketir.
L'article de Mohamed Nketir avait suscité des manifestations de protestation dans l'ensemble de la Mauritanie, seule république islamique d'Afrique de l'Ouest. Pour Amnesty International, ce pays doit supprimer de son code pénal la criminalisation de l'apostasie, car cela va contre le droit international.
La guerre contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram maintenant. La France va augmenter ses effectifs militaires au Sahel en raison des tensions liées aux activités de Boko Haram autour du lac Tchad. Des précisions avec Claire Morin-Gibault.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'a annoncé hier. Les effectifs de Barkhane au Sahel vont légèrement augmenter et ceux de Sangaris en Centrafrique vont diminuer pour, selon ses propres termes, donner des moyens de soutien et d'accompagnement sur les tensions qui se produisent autour du lac Tchad. Le ministre a toutefois précisé que les militaires français ne combattraient pas Boko Haram, mais apporteraient un soutien logistique, notamment en carburant et en renseignement aux forces tchadiennes, nigériennes et camerounaises engagées sur le terrain. Jean-Yves Le Drian s'est félicité de la vraie volonté des pays africains concernés de s'organiser entre eux et de mener le combat. En Centrafrique, suite à l'amorce d'un dialogue national, Paris a commencé à réduire les effectifs de la force Sangaris de 2000 à 1700 hommes, passant progressivement le relais à la force de l'ONU, la MINUSCA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Toujours concernant la lutte contre Boko Haram, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, convaincu que le groupe État islamique a fourni de l'entraînement aux combattants de Boko Haram au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a dit hier à Abuja dans une interview accordée à notre collègue Chris Stein. Lionel Gaïma nous présente les grandes lignes de cet entretien.
Goodluck Jonathan parlait 4 jours après que le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a fait acte d'allégeance aux djihadistes de l'État islamique. Le président nigérian n'a pas précisé où l'entraînement des éléments de Boko Haram a eu lieu au Moyen-Orient. Il a simplement dit avoir longtemps soupçonné que le groupe extrémiste nigérian avait formé des alliances avec des mouvements similaires à l'étranger.
We knew that.
Nous savons que ces liens existent, mais même maintenant, nous ne savons pas le degré de soutien que ce lien leur apporte du point de vue fonds, armes et combattants étrangers. Mais l'entraînement, parce que certains membres de Boko Haram vont s'entraîner dans les camps du groupe État islamique et reviennent au pays. Goodluck Jonathan est candidat à sa propre succession le 28 mars. On s'attend à ce que cette élection soit la plus serrée depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999.
République centrafricaine, fin de la visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU dans le pays. Sa prochaine étape aujourd'hui à Addis Abeba. Après 48 heures d'évaluation de la situation sécuritaire en RCA, la mission du Conseil de sécurité a fait l'éloge du travail accompli par la MINUSCA en 6 mois d'activité. On écoute François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU et coprésident de la délégation.
J'ai un jugement, et je crois qu'il est largement partagé par le Conseil de sécurité, donc là je parle vraiment en qualité de président du Conseil de sécurité, un jugement extrêmement favorable et élogieux sur l'action de la MINUSCA. C'est pas facile, évidemment, parce que le quotidien n'est pas facile, la tâche qui est la sienne, et notamment ses missions prioritaires, sont par définition difficiles, que ce soit la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État, comme on l'a vu à Bria. Ce sont des missions immenses, d'une difficulté extrême, et très franchement, le travail qui est accompli par la MINUSCA, de notre point de vue, est extrêmement.
En marge de cette mission, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, s'est félicitée de la baisse des violences contre les civils. Madame Power a réaffirmé l'engagement de Washington à soutenir la RCA. Et puis en République démocratique du Congo, l'ONU sanctionne cet officier congolais en raison du risque qu'il présente de commettre des violations des droits de l'homme. Selon l'AFP, les officiers mis en cause et leurs unités ne recevront plus le soutien de la MONUSCO pour ce qui est du transport du carburant ou de la formation. La MONUSCO cessera également ses opérations conjointes avec les unités commandées par ces officiers. Et maintenant, la Minute économique avec Nathalie Barge.
Les syndicats gabonais ne lâchent pas le morceau et dans la fonction publique, on ne compte plus les jours. Car la grève de la fonction publique, notamment des enseignants et du personnel de la santé, continue depuis des semaines. Hier, Dynamique Unitaire, qui regroupe une 50aine de syndicats, a conclu à des discussions infructueuses avec le gouvernement. Aujourd'hui, les cours n'ont toujours pas repris dans la majorité des lycées publics. Pas de reprise des cours sans mesures concrètes, à commencer par l'augmentation du SMIC, a dit à la Voix de l'Amérique Alain Mouagouadi, membre du Collège des leaders de la Dynamique Unitaire.
Jusqu'à ce jour, malgré les discours du président de la République, le gouvernement refuse catégoriquement d'augmenter le SMIC. Il refuse de s'engager sous prétexte qu'ils vont mettre en place un nouveau système de rémunération.
Mais ça, ce sera en juillet, non, ce nouveau système, non?
Oui, mais nous refusons d'attendre juillet. Nous demandons que le SMIC et le point d'indice soient revalorisés.
La Guinée équatoriale lance une vaste campagne de forage de 2000 puits à la suite d'un contrat de 20 milliards de francs CFA avec l'entreprise brésilienne Efes Costa, indique la revue économique Info Plus Gabon. Bénéficieront de ce programme les zones rurales et certains secteurs de Bata et de Malabo, où les populations rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. L'entreprise brésilienne envisagerait de forer un puits tous les 3 jours. Chaque puits produira 15 litres d'eau par minute. L'Algérie veut relancer des projets énergétiques avec l'Union européenne pour l'aider à limiter sa dépendance à l'égard de la Russie, selon les commentaires du Premier ministre Abdelmalek Sellal, rapportés hier par la presse nationale. Monsieur Sellal a exprimé ce souhait mardi en recevant son homologue portugais Pedro Passos Coelho en visite à Alger, indique l'AFP.
Lutte contre l'État islamique, les forces irakiennes sont entrées dans Tikrit hier. D'après l'AFP, des dizaines de milliers de soldats et de miliciens irakiens participent à la bataille face à quelques centaines de djihadistes. Et pour terminer, ici aux États-Unis, nouvelle violence à Ferguson, dans le Missouri. 2 policiers ont été blessés par balle tôt ce matin, quelques heures seulement après la démission du chef de la police de la ville suite à la publication d'un rapport détaillant des pratiques policières racistes dans cette ville. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.